Salut à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast littéraire, La Rencontre Fortuite. C'est un podcast qui, je l'espère, deviendra un podcast mensuel. À vrai dire, ce mois-ci, j'avais très envie de vous faire un podcast, un épisode sur l'inceste en littérature, mais ça me demande de faire beaucoup de lectures, dont des livres assez longs, et j'ai malheureusement pas eu le temps. À la place, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et quelque chose qui me semble être intéressant et peut un petit peu questionner les habitudes de lecture de tout un chacun, ce qui me semble d'autant plus intéressant pour un podcast qui vraiment s'inscrit dans une lignée de démocratisation et de partage de la littérature. Et j'avais donc très envie de vous poser cette question et d'y réfléchir ensemble. Pourquoi ne lit-on plus ou pas de poésie ? Et ça me semble s'inscrire parfaitement vraiment dans cette lignée qui est celle de ce podcast, celle que je viens de mentionner, celle de en finir en quelque sorte avec l'élitisme en littérature, avec l'idée que la littérature c'est pour une élite, que c'est quelque chose de poussiéreux, que c'est quelque chose de complexe. J'ai l'impression que la poésie a réellement cette réputation d'être ardue, d'être hermétique, d'être très difficile à comprendre et qu'en fait pour apprécier la poésie, il faudrait forcément avoir étudié la littérature et étudié encore plus la poésie. Alors je ne suis pas en total désaccord avec ça, mais je ne suis pas non plus en accord total avec cette position. Et donc j'ai envie d'en parler avec vous. Alors c'est un épisode qui va être en deux parties, parce qu'en réalité, lorsque j'ai commencé à écrire ce podcast, je me suis rendu compte très très rapidement que je ne pouvais pas répondre à cette question sans parler du roman. Alors cet épisode sera la première partie et sera donc consacré à l'ennemi numéro un de la poésie, le roman. Et vous allez mieux comprendre, je pense, pourquoi on est obligé de parler tout simplement du roman. Alors, cet épisode, il est né suite à deux événements. Le premier, c'est l'écoute d'un streetcast sur le blog La Luciole Écarlate, dont le contenu est passionnant. Et dans ce podcast, on nous présentait Renée Vivien, qui est une autrice et une poétesse que si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à découvrir et qui, à mon sens, il est important de la réhabiliter tant elle reste méconnue. Et c'est un podcast qui soulevait donc la question du manque de poésie, entre autres, hein, il y avait d'autres questions, mais qui soulevait donc la question du manque de poésie dans le contenu littéraire en ligne, que ce soit en fait sur YouTube ou sur Instagram. Mais j'irai plus loin en disant que ce manque de poésie en fait s'observe dans les habitudes de lecture de la plupart des gens. Et si les études de lettres maintiennent tant bien que mal la poésie au programme, cette dernière reste très souvent la mal-aimée de nombre d'étudiants. Et le deuxième événement, je regarde en ce moment une série coréenne intitulée « Romance is a Bonus Book » qui se déroule dans un environnement que j'aime bien retrouver dans les séries et les films, c'est le monde de l'édition. Et justement, dans un des épisodes, et dans plusieurs épisodes en fait, c'est une question qui est abordée. La difficulté de publier de la poésie en raison du peu de ventes de ce genre littéraire et donc le risque que prennent les maisons d'édition à publier de nouveaux poètes ou de nouvelles poétesses. Et donc suite à ces deux événements, j'ai eu envie de vous proposer cette fois-ci un épisode un petit peu différent car il ne sera pas à proprement parler thématique comme mon premier, mais plutôt une réflexion sur la poésie, sa place dans notre société actuelle et l'évolution qu'a connue le genre qui pourrait vous surprendre. Mais comme je l'ai dit, cet épisode, ou en tout cas la première partie de cet épisode, s'intéressera au roman parce que c'est le roman qui domine notre époque et qui a dominé le siècle dernier également et qui a contribué en fait un petit peu à ce déclin de la poésie. Donc comme je viens de le dire actuellement, et ce depuis le 19e siècle, si on n'est pas très précis sur les dates, et je précise tout de suite que ce n'est pas un cours d'histoire littéraire, que je ne prétends pas à l'exhaustivité, à la perfection, donc ne venez pas m'attaquer si je n'ai pas précisé tel ou tel point ou si je n'ai pas mentionné l'exception qui confirme la règle, etc. Donc depuis le 19e siècle et jusqu'à maintenant, le roman est le genre en fait le plus populaire et le plus lu, et le plus publié. Et il jouit d'une grande reconnaissance du monde artistique et de l'opinion qui serait plus populaire et pas forcément des universitaires ou pas forcément des artistes ou des connaisseurs. Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Très très loin d'être le cas en réalité. En réalité, le roman, c'est un genre très polymorphe déjà. Et il faut à mon avis faire une première distinction entre le roman moderne, à peu près tel que nous le connaissons nous, et le roman qui est apparu vers le XIIe siècle et qui était majoritairement écrit en vers. Mais le point, à mon sens, le plus intéressant et le plus important, c'est la signification au niveau sémantique et étymologique du terme lui-même, qui fera écho aussi bien à un certain mépris qu'a connu le genre, qu'à son succès au cours des derniers siècles. Parce que roman désigne en fait la langue dite vulgaire, c'est-à-dire la langue différente du latin. Le latin n'était maîtrisé que par une élite, et donc on s'est mis à écrire en roman, et les romans désignaient donc de manière très générale à la base des textes écrits en langue orale et non en latin, et donc accessibles au plus grand nombre. Ça désignera surtout des textes narratifs fictionnels au début écrits en vers, mais très rapidement écrits en prose. Dès le XIIIe siècle, en fait, on observe vraiment un grand retour de la prose. Donc il faut noter, à mon sens, que dès le début, le roman se place du côté du peuple et induit l'idée de hiérarchie ou de valeur entre des genres et des productions littéraires et linguistiques. Et vous l'aurez deviné, les genres nobles, ce ne sont pas le roman du coup, c'est plutôt la poésie et la tragédie, et ce dès l'Antiquité avec la poétique d'Aristote, qui est vraiment l'un des textes fondateurs des théories littéraires, et si vous allez à l'université pour étudier les lettres modernes, vous aurez forcément un petit détour par la poétique d'Aristote. Et donc, on fait un petit saut là, et on se retrouve au XVIIe siècle, avec un genre qui est relativement méprisé et peu considéré, aussi bien pour des raisons en fait esthétiques que morales. En effet, le roman serait pernicieux. Et il serait pour les femmes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Madame de Lafayette, qui est l'autrice de La Princesse de Clèves, et qui est considérée quand même comme l'un des romans, le premier roman d'analyse, et l'un des romans fondateurs dans la littérature française, elle ne voulait pas dévoiler en fait son identité pour ne pas être considérée comme une autrice de mauvais genre, c'est-à-dire le roman. C'est donc vraiment intéressant, à mon sens, de constater que la dévaluation de ce genre reposait principalement sur deux aspects. L'aspect populaire, après tout le roman ne fait que raconter une histoire, la plupart du temps assez invraisemblable et farfelue, et le deuxième, l'aspect féminin, qui supposait donc forcément en fait une infériorité esthétique, intellectuelle et morale. On retrouve cet aspect féminin fortement dans les critiques faites à la préciosité. La préciosité, j'aimerais bien d'ailleurs vous faire tout un épisode là-dessus, mais c'est un mouvement qui est né, qui s'est formé dans les salons littéraires qui étaient principalement féminins en fait, et pour la faire très courte et très brève, la préciosité, c'est un mouvement littéraire qui repose essentiellement sur un embellissement de la langue et des jeux de langue. Et donc c'est tout ce qui est décrié dans le roman, d'accord ? C'est cette idée de la littérature féminine, très centrée sur l'amour et qui, s'éloignerait de la précision, de la concision et de la beauté pure et effective du langage. Alors, on peut repérer assez rapidement que la plupart de ces critiques se fondent en fait sur ce qu'on pourrait considérer comme un certain conservatisme littéraire. Les anciens, à comprendre les antiques, n'ayant pas théorisé sur le roman. En effet, le roman n'apparaît pas comme un genre, par exemple, dans les écrits d'Aristote. Eh bien, le genre ne peut pas être méritant, vu que les anciens n'en ont pas parlé. Il est irréaliste, il est grotesque, il émousse les capacités à apprécier un vrai beau style. Et surtout, la place trop importante de l'amour, comme je l'ai un petit peu mentionné, permettrait en fait de reléguer la morale, les convenances et la bienséance au second plan, tant les émotions transporteraient les lecteurs et par la même occasion les pervertiraient. D'ailleurs, surtout les lectrices. Boileau écrira d'ailleurs dans son célèbre Art poétique, « Dans un roman frivole, tout s'excuse ». Il y a donc implicitement également une critique d'une certaine libération et émancipation vis-à-vis de la religion, qui est quand même l'entité d'où découlent les valeurs morales, qui est faite contre le roman. Il faut préciser quand même que le roman, c'est pas le seul genre à subir ces attaques. Par exemple, lui, Rousseau condamnera le théâtre, qui selon lui corrompt les jeunes filles. On connaît vraiment les positions par exemple de Port-Royal sur le théâtre et sur les tragédies. Les nombreuses critiques qui ont par exemple été faites à Racine. Enfin. Mais le roman est quand même, on va dire, assez universellement, en France en tout cas, donc pas vraiment universellement, mais vous m'aurez comprise, vraiment décrié. Et en fait, c'est parce que dans le roman, il y a une certaine remise en cause de l'ordre social, et un ordre social qui est bien sûr patriarcal, comme le montre en fait cette citation de Charles Sorel. Alors juste pour revenir sur Charles Sorel, c'est un auteur... un critique, un essayiste, enfin, vous pouvez, il a écrit de nombreuses formes de textes, et notamment des romans. Et en fait, il les a tous pratiquement publiés sous des pseudonymes, justement pour préserver sa réputation d'érudit. Et donc, voilà ce que nous dit Charles Sorel, en parlant du roman. C'est là qu'on prétend montrer que les femmes sont les reines des hommes et de tout l'univers, et qu'on doit même les reconnaître pour déesses. Il n'y a point de lieu où leur mérite soit élevé plus haut. On y parle de quelques filles qui n'ont que la beauté pour partage avec quelques agréments d'humeur, lesquelles sont plus estimées que celles qui sont riches et de haute condition, et l'on y trouve quelquefois des princes humiliés devant une petite bergère. quelle espérance cela ne donne-t-il point aux filles de bas lieu ou de médiocres ? Donc vous voyez qu'il y a quand même une critique assez forte et assez misogyne, et c'est un point extrêmement intéressant que de constater les intrications du genre avec les appréciations littéraires, les appréciations des différents genres littéraires et des différentes formes d'écriture. C'est vraiment quelque chose qui est assez peu étudié, je trouve. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais étudié dans mon cursus littéraire, alors que c'est vraiment une pensée assez dominante et des critères qui reviennent très fréquemment justement dans les réflexions littéraires, surtout à une certaine époque, de manière totalement explicite parce que c'était accepté et on pouvait en parler de manière décomplexée. Plus tard, ça c'est plus implicite, mais c'est toujours très présent. Alors, on arrive au XVIIIe siècle. Et alors, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, le roman commence à être mieux considéré. Et il connaît une grande diversification de ses sous-genres. C'est dû en partie à l'importation des romans anglais qui arrivent en France et qui connaissent rapidement une grande popularité. Et Diderot contribue d'ailleurs beaucoup à cette réhabilitation du roman et à la figure du romancier par son éloge à Richardson, qu'il admire beaucoup, en 1761. Il nous dit « Par un roman, on a entendu jusqu'à ce jour un tissu d'événements chimériques et frivoles, dont la lecture était dangereuse pour le goût et pour les mœurs. Je voudrais bien qu'on trouvât un autre nom pour les ouvrages de Richardson, qui élèvent l'esprit, qui touchent l'âme, qui respirent partout l'amour du bien, et qu'on appelle aussi des romans. Tout ce que Montaigne, Charon, La Rochefoucauld et Nicole ont mis en maxime, Richardson l'a mis en action. Mais un homme d'esprit, qui lit avec réflexion les ouvrages de Richardson, refait la plupart des sentences des moralistes, et avec toutes ces sentences, il ne referait pas une page de Richardson. » Donc là, on a quand même quelque chose de très intéressant qui s'opère. C'est le fait que, en France, au XVIIIe, il y a vraiment une certaine forme d'admiration et on applaudit le génie anglais qui permet de réhabiliter la figure du roman et du romancier. Et ce que nous dit là Diderot, c'est que le romancier est plus doué et plus complet que le moraliste. Et là, c'est vraiment un grand changement au niveau des opinions, des perceptions et des considérations littéraires. Et on constate que la dimension quand même artistique ou la dimension imaginative qui n'est pas présente, ou en tout cas pas de la même façon, chez les moralistes, c'est ce qui fait qu'avec toutes ces sentences, on ne referait pas une page de Richardson. Donc là, il y a vraiment quand même un grand changement dans la manière de penser le roman. Et suite à cette deuxième partie du 18e, on arrive au 19e, qui alors là marque la réhabilitation quasi totale et triomphante du roman, mais surtout celle du roman réaliste. Alors, attention, la censure et la morale rôdent toujours, clairement. On a pour exemple, très facilement, Flaubert. Mais les langues se délient pour défendre publiquement ce genre, qui était alors extrêmement... qui était auparavant vraiment déprécié et que personne n'aurait défendu sur la place publique. On a par exemple Stendhal qui nous dit « Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera, par vous, accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange et vous accusez le miroir. Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. » Donc en fait, ce que nous dit Stendhal, plus ou moins là, c'est qu'au lieu de censurer, de punir et de condamner des romans et des romanciers qui ne font que, justement dans cette veine du roman réaliste, retranscrire une réalité, eh bien au lieu de les condamner eux, il faudrait condamner cette réalité qui offense et qui scandalise. Et là, on remarque donc très rapidement que le roman n'est plus cette chose futile, cette chose qui corrompt, qui manque de précision, de qualité littéraire et de visée éducative. Tout au contraire. Et on observe alors également un phénomène inverse. C'est que la littérature qui est détachée du monde, si tant est qu'une telle chose soit possible, on pourrait revenir là-dessus et en parler pendant des heures, mais il y a des mouvements qui revendiquent un petit peu une certaine forme de pureté de la littérature, par exemple la poésie, en tout cas à cette époque, le romantisme, le symbolisme, le Parnasse, sont de plus en plus décriés. On pense que c'est des genres qui sont trop confus, trop difficiles à comprendre, trop éloignés des réalités, qui ne servent pas la société. Et on observe en réalité une étroite relation entre les considérations politiques, sociales des époques et les préférences littéraires. Par exemple, le XVIIe s'intéresse beaucoup à la morale, pour faire très simple, d'accord? Et donc, il y a vraiment une condamnation du roman pour son amoralité ou son immoralité. Le siècle des Lumières, lui, commence à quand même s'ouvrir au reste du monde, devient plus souple, et c'est là qu'arrivent les romans anglais, par exemple. Le XIXe, lui, marque un élan vers la science, un certain matérialisme. On commence vraiment à se questionner sur des problématiques de lutte sociale de manière beaucoup plus forte, et cela se retrouve dans les affections et les mépris pour tel ou tel genre. Et c'est justement, à mon sens, au XIXe que la domination du roman devient un petit peu questionnable. Parce qu'elle marque une rupture assez nette, même si bien sûr il faut toujours nuancer et pas être absolu ou catégorique, elle marque une rupture assez nette avec des domaines tels que la spiritualité, la musique, la beauté, la littérature, la beauté comme premier souci, le rêve, une certaine légèreté, une certaine esthétisation de la littérature, hein, l'imagination, la création. Mais bon, en réalité tout cela est bien plus complexe. Parce qu'on peut prendre par exemple Zola, qui est quand même l'écrivain scientifique par excellence avec le naturalisme. Alors si on prend Germinal, oui, ça marche. Mais que dire de romans tels que Le Rêve de Zola? Où là, effectivement, le rêve, un certain lyrisme, un certain idéalisme même sont très présents. Ou prenons Balzac et Le Lys dans la vallée. Ou même La peau de chagrin. Ou encore Huysmans, qui alors lui exprime totalement dans ses romans une recherche spirituelle et esthétique, et qui s'inscrit vraiment en contre-courant, mais bon, Huysmans on peut le rattacher à d'autres mouvements qui sont un petit peu mineurs, on va dire, au 19e, mais c'est juste pour vous montrer que, comme toujours, l'histoire littéraire, en fait, ne peut pas être univoque ni exhaustive, et il faut donc forcément accepter, en fait, les contradictions, les exceptions et certaines généralisations pour pouvoir dresser des portraits des mouvements qui restent assez globaux et quand même permettent d'appréhender au mieux certaines périodes. Arrive donc logiquement le XXe siècle. Et alors au XXe siècle, le roman, comme beaucoup de choses par ailleurs, est confronté à une crise presque existentielle et il redevient la cible des critiques, notamment de la part des surréalistes. Alors, il y a également un mouvement qui s'appelle le nouveau roman, qui met à mal le genre en fait en le triturant, en le manipulant juste à l'extrême. Le surréalisme, lui, pour le dire de façon simple, exclut carrément le roman. Le roman, pour eux, c'est un genre inintéressant qui nie la beauté et l'importance du merveilleux, qui nie même les conditions d'écriture nécessaires selon le mouvement, à savoir la liberté de l'esprit, la libre association, les images, l'écriture automatique. Pour les surréalistes, en fait, le roman, c'est un genre littéraire qui est positiviste, matérialiste et bourgeois, et en gros, tout ce que détestent les surréalistes. Je tiens à préciser quand même que cette alliance de bourgeoisie et du roman n'est quand même pas réservée aux surréalistes. Hegel, qui n'a rien à voir avec le surréalisme, dira même au sujet du roman qu'il s'agit de la moderne épopée bourgeoise. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le roman, dans ses origines, c'était tout le contraire de cela. Donc il y a vraiment une évolution du genre, et une évolution de la perception du genre. Ça, c'est très très clair. Alors que la poésie, parce que c'est quand même normalement le sujet principal de cet épisode, mais comme je vous l'ai dit, en deux parties, la poésie pour les surréalistes, elle est partout. Elle est la vie même. Et tout le monde est poète si on vit d'une façon surréaliste. Alors, je vous parle d'une crise du roman. Oui, il y a définitivement une crise du roman au XXe, mais dans l'ensemble, le surréalisme, c'est le seul mouvement à réellement le rejeter et à se tourner aussi résolument vers la poésie. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai très très envie de vous parler en détail du surréalisme parce que c'est mon mouvement littéraire préféré, c'est un mouvement que je connais assez bien, sur lequel j'ai déjà travaillé, donc n'hésitez pas à me dire. Et donc, à l'exception en fait du surréalisme, les autres courants restent quand même du côté du mouvement. Ils s'évertuent juste à le recréer, à le remodeler, à détruire les personnages, à repenser la narration, à dépouiller le style ou à proposer par exemple le Stream of Consciousness de Virginia Woolf ou même de Joyce par exemple, des écritures très intimistes comme celle de Colette par exemple ou celle de Sylvia Plath qui elle fait de la littérature, fait de la poésie mais également partage beaucoup ses journaux qui deviennent du coup un objet littéraire un petit peu inédit. Et on voit vraiment qu'il y a un flou des limites des genres au XXe, notamment avec les œuvres surréalistes quand même. Si vous prenez Le Paysan de Paris, Si vous prenez Nadja, c'est pas de la poésie, c'est pas un roman, mais ça a la forme d'un roman. Alors qu'est-ce que c'est ? Et pour en revenir du coup à ce rejet du roman par le surréalisme, ça marquera d'ailleurs la rupture, entre autres choses, entre Aragon et Breton, parce qu'Aragon, lui, était romancier et il voulait écrire des romans. Et Aragon nous dit donc ceci, une citation que je trouve très intéressante, « Le roman est une machine inventée par l'homme pour l'appréhension du réel dans sa complexité. Jusqu'ici, les romanciers se sont contentés de parodier le monde, il s'agit maintenant de l'inventer. » Donc ça, c'est tiré de Blanche ou l'oubli. Alors, dans cette citation, on retrouve quand même des idées qui sont fortement surréalistes, mais qui sont également, par exemple, présentes dans les objectifs ou les buts littéraires de Balzac, c'est-à-dire la constitution d'un monde par et dans le roman. Alors, les surréalistes, ce n'était pas par et dans le roman, mais c'était par et dans la création. Et là, pour Aragon, ça s'inscrit vraiment dans le roman. Et cette notion de complexité et d'appréhension du réel et de créer, d'inventer un monde, c'est peut-être là les raisons qui ont permis en fait au roman de s'imposer à travers les âges. Soit que ça soit un genre qui lu en secret avec un petit sentiment de culpabilité, un plaisir, un péché mignon si vous voulez, un plaisir coupable. Soit en tant que genre réhabilité ou en tant que genre dominant et tout puissant. C'est peut-être aussi ça qui pousse Bakhtin à écrire dans Esthétique et théorie du roman en 1978. Le roman est le seul genre en devenir et encore inachevé. Il se constitue sous nos yeux. Alors, suis-je d'accord avec ça ? Pas réellement, mais je ne peux pas nier que le roman reste le genre que j'affectionne le plus, car il présente, à mes yeux, ce qu'Edith Wharton, qui est une autrice américaine, décrit comme « the padding of life ». C'est une expression que j'aime beaucoup, qui est quasiment introduisible en français et qui perd tout son charme en français, mais qui signifierait à peu près le rembourrage de la vie, ce qui rend la vie dense et pleine. Et j'ai l'impression que ça se retrouve uniquement dans les romans. Mais quant à dire que le roman est le seul genre en devenir et encore inachevé qui se constitue sous nos yeux, moi je ne suis pas forcément d'accord, et justement la poésie arrive à ce moment-là. Quant à dire également que le roman permet d'appréhender le réel dans sa complexité, est-ce qu'on ne peut pas également attribuer cette qualité à la poésie ? Et quand on pense à toutes ces questions de popularité, d'être du côté du peuple, ces questions d'élitisme, ces questions de langue, ces questions de transgression, ces questions des avant-gardes, est-ce qu'on ne peut pas également fortement relier ça à la littérature ? À la poésie, pardon. Et quand on pense également aux questions de genre, que j'ai quand même soulevées dans cet épisode, et qui ont fait que le roman a été fortement déprécié, est-ce qu'on ne peut pas également poser ce genre de questions sur la poésie, mais en présentant la poésie comme l'entité féminine ? Alors tout ça, on en reparlera dans le deuxième épisode qui sera lui entièrement consacré à la poésie, mais il était vraiment impossible pour moi de vous parler de poésie et d'expliquer en fait le déclin de la poésie sans vous parler de l'essor du roman qui justement a entraîné et s'est inscrit en parallèle de ce déclin de la poésie. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré l'écrire et j'ai vraiment apprécié partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire si ce sont des choses qui vous intéressent. Si des focus sur des mouvements, sur des auteurs, sur des époques peut-être littéraires peuvent vous plaire. Je vous encourage vivement à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Je poste beaucoup à propos de la littérature. J'en parle également sur ma chaîne YouTube. Et j'ai également un Patreon si vous voulez. C'est comme Tipeee. Si vous voulez me soutenir financièrement pour m'aider à continuer de créer ces podcasts qui demandent beaucoup de temps, vous pouvez le faire avec 1€ par mois. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 2 de cet épisode dédié à la lecture de la poésie.